Vous écoutez
RMC.
RMC.
I love your body, David. And your ass.
On réussit à égaliser 2-1.
Eux, ils vont avoir une motivation décuplée. Après, c'est à nous de se mettre à la hauteur de l'événement et de mettre toute l'investigation qu'il faut nécessaire pour le match.
L'After Foot, Intégral Euro.
Nicolas Villas.
Avec Daniel Riolo, avec Walid Acharchour, il est 23h, vous êtes sur RMC. On vous rappelle demain, première demi-finale de l'Euro entre l'Espagne et la France à Munich. Grosse page espagnole à venir dans l'After avec notre Fred Hermel. Salut Fredo.
Hola chicos.
Ça va Fredo?
Bah écoute, ça va, tranquille pour demain. C'est...
Ah ouais, tranquille.
Ça se prépare tout demain. Tu sais, moi, à la fin, j'aurais gagné, quoi qu'il arrive.
C'est vrai. C'est surtout si c'est l'Angleterre.
Ah bah non, dans les deux cas, tu peux perdre en finale.
Surtout si c'est l'Angleterre, oui. Mais...
Ah non, mais je veux pas perdre contre l'Angleterre.
Ah moi. Oui, mais alors.
Ah non, finale, non.
Alors, il y a plein de dossiers. Il y a plein de dossiers autour de la Roja avant cette demi contre la France.
Espagne-Angleterre, tu sais que la dernière finale féminine, c'est Espagne-Angleterre.
Ouais.
La dernière finale de Euro Espoir, c'est Espagne-Angleterre.
Oh, c'est un signe, ça, tu veux dire?
Non, mais je.
Alors, on rappelle qu'il y a trois joueurs majeurs de l'Espagne qui seront absents contre les Bleus. Carvajal est le Normand suspendu, Pedri blessé. Alors, pour toi, avec l'absence du latéral du Real, il y a un duel qui devrait être entre Jesús Navas et Mbappé qui devrait être la clé du match. Déjà, la question, parce qu'on en parlait déjà un peu tout à l'heure, est-ce que c'est vraiment Navas qui va jouer face à Mbappé demain?
À moins que Luis de la Fuente décide de mettre Nacho, qui a, dans une certaine époque, joué souvent, joué latéral.
Absolument, c'est pour ça que moi je mise là-dessus.
Dépanné.
Et dis donc, Navas, il est pas dans le France-Espagne de 2012?
Il doit être sur le banc.
Bah, je me demande s'il joue pas ce match.
Il doit rentrer.
Il a 38 ans. Donc
non, il est sur
le 2-0 à l'Euro.
Ouais, surrestant dans la liste, il est là. Mais
c'est ça qu'il est, mais je me demande s'il joue pas le match.
Mais il joue pas latéral à cette époque.
Non, il jouait lié. Mais non, je crois qu'il est. Je vais vérifier.
Je vais voir.
Mais aujourd'hui,
sa présence sur le terrain me dit quelque chose.
Aujourd'hui, Navas est un joueur quasi retraité, hein, donc voilà.
Il est sur le banc, me confirme Jérôme Thomas.
Il rentre pas. J'ai sa tête. Il a joué dans d'autres matchs.
Il a
peut-être
le
match au Stade de France, la première de Pogba et Varane un peu plus tard.
Vas-y Fredo, c'est quoi la tendance alors pour le couloir droit en l'absence de Carvajal alors?
La tendance c'est Navas, mais c'est une demi-finale, donc quand même le sélectionneur il joue un peu au bluff, hein, donc on va dire aujourd'hui que c'est 80% Navas, mais que c'est il y a 20% du fait que ce soit Nacho et que Viviane de l'Athletic Club de Bilbao entre à la place de Nacho en chaleur centrale à côté de la porte. C'est vrai que côté gauche, ils ont beaucoup de monde, hein, parce qu'ils ont Cucurella qui a un niveau exceptionnel dans cet Euro. Et puis il y a Grimaldo aussi, hein, du Bayern Leverkusen qui peut être là au cas où. Mais à droite, Carvajal. Alors c'est déjà l'absence de Carvajal est énorme parce que le type, on le sait, hein, c'est un gagneur. Il est chiant sur un terrain.
Surtout il a le caractère pour énerver les mecs.
Ah oui. Alors c'est vrai que c'est vraiment, hein, c'est pour moi c'est le de toute l'équipe. Ça me paraît, pour plein de raisons, face à la France, l'absence la plus importante.
Ouais.
Justement par le poste qu'il joue, parce que si Mbappé se réveille un petit peu, ça peut faire mal. Et
alors, s'il ne se réveille pas contre Jesús Navas, il ne se réveillera jamais.
Alors là,
38 ans, mec, il arrête sa carrière
s'il ne met pas un courant d'air. Là.
Parce que Nacho et deux joueurs qui vont jouer en Arabie Saoudite. Hein.
Mais alors après, il y a aussi un dispositif tactique qui est très évident, hein, je veux dire, même si on en parlait tout à l'heure, Fabien Ruiz dit qu'il n'y a pas de plan anti-Mbappé, s'il y a un plan anti-Mbappé, parce qu'il y a aussi Navas. Et ça sera très simple, c'est qu'il faut qu'il y ait des couvertures. Et les couvertures, c'est Nacho qui va devoir couvrir, et aussi Rodri qui va être très très occupé pour venir assister Navas.
Et qu'il y aura Colomani sur le dos.
Et voilà. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que de l'autre côté...
Il y aura des espaces.
D'où la réflexion qu'on se faisait déjà avec coach dimanche, c'est que là la présence de Dembélé nous paraît et me paraît personnellement très importante parce que automatiquement, la présence de Navas fait que ça va déplacer la défense sur Navas face à Mbappé et donc ça peut ouvrir du côté de Dembélé. Donc on a peut-être besoin d'un joueur de ces caractéristiques-là face à Cucurella qui sera tout seul. Face à celui qui sera titulaire, on espère Dembélé, et parce qu'il y aura logiquement ce déplacement de Rodri et de la défense de la centrale. Donc je trouve que c'est un match qui réserve réserve beaucoup de réflexions et beaucoup de solutions tactiques. Demain, ça sera très intéressant à observer.
Ouais. D'ailleurs, c'est marrant parce que De La Fuente, il a fait cette analyse-là en parlant de ses joueurs. En disant, moi, j'ai parlé avec Yamal, je lui ai dit, s'il y a trois joueurs sur toi, bah, c'est cool parce que ça va libérer des espaces à Nico Williams qui devrait avoir Koundé face à lui. Vas-y.
Non, moi, je dis que surtout la perte de Carvajal, au-delà de l'aspect défensif, sur l'aspect offensif, je trouve qu'il y a beaucoup de connexions avec Yamal depuis le début de la compétition.
Ah, mais humainement aussi. Techniquement
et
humainement.
Et qu'il y a beaucoup de situations espagnoles qui se décantent grâce à leur combinaison. Et même ça, je suis pas sûr qu'avec Jesús Navas, si Jesús Navas démarre, je suis pas sûr. En plus, je regardais un peu les stats, c'est souvent avec le FC Séville, souvent 70 minutes, 60 minutes. Donc, je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de caisses. Si le match perdure, ça peut être compliqué parce que tu vas devoir aussi trouver une solution pour les Espagnols en cours de match. Donc, c'est une vraie perte.
Ouais, autre match dans le match, hein, donc ce sera Koundé également face à Nico Williams. Il a beaucoup été question d'ailleurs de Nico Williams dans la conf de presse de De La Fuente aujourd'hui. Il a été comparé notamment à Kylian Mbappé, il a encensé les deux. Bon, Luis De La Fuente qui est un bon communicant aussi, Fredo. Mais ça va être intéressant de voir également ce duel entre ces deux joueurs, là, Koundé et Nico Williams.
Oui, voilà, d'autant plus qu'on parle beaucoup de Nico Williams parce que le Barça veut Nico Williams.
Alors Laporta, bon, qui a carrément, alors il a balancé.
Il dit qu'il a l'argent. On peut se permettre
de faire un transfert comme celui de Nico Williams, a-t-il dit. Nous avons les moyens d'assurer ce transfert, c'est une possibilité sur laquelle on travaille avec Hansi Flick. Voilà.
Ouais, après, Nico Williams, il est à la tête du club de Bilbao, qui est un club qui paye très bien, qui sait très très bien retenir ses joueurs. Donc il va falloir mettre de
la clause, elle serait autour des 60 millions d'euros, la clause libératoire.
Oui, mais après, il y a le salaire aussi. Hein. Ouais.
Nico Williams, Yamal au Barça et Vinicius Mbappé au Real.
Ouais, c'est pas dégueu.
Ça donne envie de voir la Ligue l'année prochaine.
Ah ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que logiquement, le Barça a envie de créer cette.
Ça tombe bien, tu seras pas emmerdé avec les matchs de Ligue 1, on les verra pas à la télé. T'auras du temps.
Donc Koundé. Alors moi, Koundé, moi ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais dans beaucoup de classico Barça-Real ou Real-Barça, Xavi ne mettait pas Koundé latéral droit, il mettait Araujo face à Vinicius. Vous vous souvenez de ça?
Ouais, ouais.
Parce qu'il ne faisait pas de confiance à Koundé. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que 8 fois sur 10, il y a eu beaucoup de classicos, il a mis Araujo, et soit il a pas fait jouer Koundé, ou soit il a mis Koundé en défense centrale.
Tiens, je t'arrête deux secondes, Fredo. Je me suis en mode Julien Laurence. C'est fini au basket entre la France et l'Allemagne, un match de prépa pour les Jeux Olympiques, Alex Biggerstaff. Apparemment, c'est fini pour Alex aussi.
Il est parti,
mon bibi. 70-65. Ils ont perdu. Ils ont perdu, Jérôme Thomas, me dit Jérôme Thomas. 70-65.
Et du coup, il s'est barré.
Voilà, bah, je lui ai dit dégoûté, bibi. Non, il est parti chercher la réaction. Que vous retrouverez sur rmcsport.fr, bien entendu. Tiens, parlons un petit peu du milieu de terrain aussi, mon Fredo. Alors, il y a un joueur qui se révèle au cours de 7 euros. C'est Fabian Ruiz. Alors, qui s'est exprimé d'ailleurs aux Parisiens, à nos confrères du Parisien. On lui a demandé ce qu'il pensait des critiques dont il était souvent la cible en France. Il a répondu, je lis pas trop les critiques. Après, si certains me préfèrent en équipe nationale, plus en équipe nationale qu'en club, j'ai pas grand chose à leur dire. L'essentiel est de tout donner pour mes équipes. Je trouve que la manière de jouer au PSG et en Espagne se ressemble beaucoup avec des entraîneurs espagnols. Les deux adorent la possession. Est-ce que c'est devenu un taulier de l'Espagne, ce joueur, Fredo, là?
Ah oui, et franchement, personne ne s'attendait en Espagne à voir, à part peut-être son père, sa mère et sa famille, à voir Fabian Ruiz à ce niveau-là. Parce qu'en Espagne, c'est considéré comme un bon petit joueur. Tu vois ce que je veux dire, mais c'est quelqu'un qui n'a jamais
en France aussi. Hein.
On l'a tous considéré toujours à peu près comme ça.
Un bon petit joueur,
même si c'est un gars qui est assez technique pour qu'on ait un peu plus d'affection pour lui, parce qu'on aime quand même toujours les gars qui manient le ballon.
En Espagne, des types aussi techniques que Fabian Ruiz, on a plein. Tu vois ce que je veux dire. Là, ce qui est intéressant, c'est la vista qu'il a, c'est le comment dire, la dimension de direction du jeu qu'il a pu prendre depuis cette début de cet euro. Je pense aussi que la première action qu'il fait, c'est au bout de quelques minutes face à la Croatie, c'est le premier match que l'Espagne craignait, c'est cette passe en profondeur absolument lumineuse pour Morata, et Morata, pour une fois, il loupe pas, il met le but. Et en fait, la mayonnaise a pris tout de suite, quoi. Et je pense que dans la tête d'un joueur comme ça, ça aide. Alors, on parle toujours de la confiance, j'aime pas ce mot-là. Mais tu vois, en disant, bah, tiens, ça marche. Et il y a une sorte de connexion qui s'est faite entre lui et les autres joueurs. Alors, on l'a déjà évoqué. Quand tu as un type comme Rodri à côté, Ou un trick comme Pedri. Pedri qui attire quand même beaucoup les rivaux. Et Rodri qui est quand même le meilleur milieu défensif au monde à l'heure actuelle. Ça te libère aussi. Donc, mais c'est vrai que Fabián Ruiz aujourd'hui, enfin jamais en Espagne on l'a vu à ce niveau, mais surtout dans les matchs qui se répètent en fait. Hein, voilà. Donc et en plus il marque. Il me donne des passes, il marque. Vous savez que Fabián Ruiz a mis cinq passes décisives dans un Euro. Et Iniesta et Xavi, c'est quatre. Donc vous voyez le niveau qu'il a atteint. Alors personne ne l'ose, ne va le comparer avec Xavi et Iniesta pour l'instant. Mais pour dire que il est effectif, qu'il est, il a des stats incroyables, Fabián Ruiz. Donc moi je trouve ça super qu'il se révèle. Et qui sait si l'année prochaine c'est un autre joueur qui va arriver au PSG.
Bah tiens, justement, on lui a demandé si il comptait quitter le PSG. Alors lui il a répondu: je sais que mon nom ressort à chaque mercato, mais je suis bien à Paris, il me reste 3 ans de contrat et j'ai encore beaucoup d'objectifs à atteindre avec le PSG. Donc il a l'air plutôt de s'y plaire,
en espérant qu'il revienne à Paris avec les mêmes prestations qu'avec l'Espagne.
À Paris, on sera quand même dans la deuxième année du génie, ce sera forcément mieux.
Non mais dans la tête, mais enfin ça arrive tous dans n'importe quelle carrière, dans n'importe quel milieu professionnel. À un moment tu réussis un grand truc et ça te fait évoluer et dans ta tête t'es plus fort, quoi. Et il y a toujours des passages comme ça, et peut-être que cet euro de Fabián Ruiz, qui quoi qu'il arrive est exceptionnel, lui aura fait passer un cap dans sa tête et qu'il sera bien meilleur l'année prochaine.
Si tu récupères Kimmich, t'as le Vitinha de 7 euros et t'as le Fabián Ruiz de 7 euros,
ça de la gueule.
Ça va être pas mal le Paris Saint-Germain.
Tiens, juste un petit mot vite fait également sur un autre milieu de terrain de la Roja, c'est Rodri.
Sans le génie français.
Ouais. Il a fait une interview au Guardian, on lui a demandé s'il était candidat au prochain Ballon d'Or. Alors il dit: je joue pas au foot pour ça. Peut-être que les gens aimeraient que ce soit plus vendeur, plus commercial. Et Morata me dit parfois: amigo, tu devrais l'être, un peu plus commercial, mais je perçois le football autrement. Mais bon, si un jour quelqu'un veut récompenser le travail, il sera le bienvenu. Mais ça ne me dérange pas du tout si, en gros, un jour, il n'a pas le ballon d'or.
Enfin, voilà. Sur le côté commercial, je pense que tous ceux qui regardent le football sont fans de Rodri. Hein.
Ouais. Mais non, mais ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il n'est pas forcément
Il n'est pas spectaculaire comme Vinicius, ouais. Il n'est pas spectaculaire comme les offensifs.
Ça, c'est souvent les 6, c'est comme ça.
Je pense que tout fan de football,
il arrive à comprendre énormément pour voir que c'est un top 3 player en ce moment.
Dans les noms que tu vas citer aujourd'hui, dans les meilleurs joueurs au monde.
Ah bah moi si j'ai une équipe, mon 6 c'est lui.
Je vois pas
comment tu peux faire autrement.
Ouais, j'hésite.
Tiens, un dernier mot avant de te lâcher, mon Fredo, sur Alvaro Morata. Alors qui a fait une sortie médiatique, une de plus, qui a fait beaucoup parler en Espagne. Il a fait une interview au quotidien El Mundo. Il est revenu sur les critiques dont il est souvent la cible en Espagne. Et il a dit: c'est vrai qu'en Espagne il m'est très difficile d'être heureux. En Espagne il n'y a aucun respect pour rien ni pour personne. Il laisse entendre d'ailleurs qu'il pourrait quitter la Roja après l'Euro. Ce sera peut-être le cas, dit-il, une possibilité dont je ne veux pas trop parler, mais c'est probable. Il a aussi déploré le fait que certains voulaient qu'il soit suspendu pour cette demi-finale face à la France. On se souvient qu'il y avait un carton jaune qui lui avait été donné par erreur. Enfin, il tape un gros coup de gueule et le timing n'a pas été très apprécié d'ailleurs en Espagne, hein, juste avant cette demi-finale.
Non, mais après, je le comprends. Moi, c'est pas un joueur que j'aime beaucoup, hein, mais je trouve un peu dégueulasse ce qui se passe autour de Morata. Morata est victime d'un mépris de classe à l'envers. C'est-à-dire que Morata est ce qu'on appelle un pijo en espagnol, c'est-à-dire un besbège, un petit bourgeois, quoi. Voilà, un papa cadre dans une grande radio, banlieue chic de Madrid, école privée, l'arrêt sur le côté et les cheveux avec de la gomina. Et Morata a toujours été un petit peu méprisé dans le milieu du football parce qu'il était un peu bourgeois. Et c'est vrai qu'il y a eu depuis des mois et même des années des attaques contre lui et sa famille où quand même des gens demandaient la mort de ses enfants, quand même on en est là, hein. C'est-à-dire il suscite une haine qui est absolument insupportable et c'est très dur pour lui même aujourd'hui de vivre en Espagne.
C'est-à-dire qu'il reposait sur quoi en fait?
Sur le fait qu'il a pas toujours eu une très bonne communication, mais il fait bourgeois, il fait vraiment pyro, tu vois, il est vraiment le prototype du pyro, et il y a une sorte de mépris pour lui à cause de ça. Et aussi le fait qu'il loupe souvent des occasions.
Oui, il y a ça aussi. Voilà. Il y a aussi l'aspect.
Ah oui, voilà, il y a deux choses. Il y a ça aussi. Mais enfin, je veux dire, on a le droit de louper des occasions. T'es pas obligé de demander la mort des enfants, quoi. Oui, c'est-à-dire la mort de sa femme. Et non, bien sûr, c'est absolument immonde les campagnes de dénigrement qu'il y a contre ce type. Et d'ailleurs, il pourrait aussi retourner en Italie. Il peut il laisse la porte ouverte de l'Atlético pour cet été aussi. Donc voilà, c'est alors pareil, c'est pas un grand joueur, moi je pense que c'est un bon petit joueur, Morata.
Il trouvera encore un très gros club, parce qu'il faudra me présenter l'agent de Morata quand même sur sa carrière.
Ben on parle de Milan,
le nombre de gros clubs qu'il a fait au gros montant, Morata.
Ah ouais.
Enfin, pour moi il mange toujours sur sa finale, sur
non,
sa...
le casque comme ça, t'aimes bien.
Sur sa demi-finale.
Il y a un côté DJ, ouais, un peu. Ouais.
C'est incroyable.
Vous pouvez le voir sur la chaîne YouTube de l'acteur. Non mais garde-le, ça c'est cool. Il y a un côté Mickey Bourré,
on dirait Mickey Bourré. Je pouvais pas te prendre au sérieux, quoi.
Je voulais parler à Jérôme Thomas dans les ordres.
Ah,
mais pour moi, il mange encore sur sa demi-finale 2015 avec la Juventus contre le Real Madrid.
Tout le temps. Non mais il a toujours, on se souvient.
Il a quand même fait Chelsea, Atlético. Il est revenu au Real.
Il a
fait la Juventus, enfin la Juventus il y était. Là, s'il revient au Milan, c'est fort quand même. Hein. C'est très très fort.
Non mais en fait le problème c'est qu'on se souvient plus des ratés de Morata que de ses buts.
C'est vrai.
Et ça le poursuit, donc c'est compliqué pour lui. Après il peut t'en claquer quand il est dans un bon jour, il peut t'en claquer un demain, hein, il monte la tête, enfin je veux dire, puis
le capitaine
après,
de Steve, hein.
Ouais, alors ça c'est un peu bizarre. Je trouve que c'est un peu bizarre parce qu'il a pas forcément le caractère pour ça. Après devant les défenseurs centraux, il n'arrête pas de bouger, hein. C'est pas un attaquant immobile, hein, on va dire, hein. Moi je le trouve pas très fan, et d'ailleurs c'est dingue que l'Espagne n'ait pas un grand numéro 9. Ça c'est fou, quoi, tu vois. Mais voilà, faut s'en méfier, il sera titulaire demain bien entendu, Morata, parce qu'il a le soutien de son sélectionneur.
Ouais, il l'a défendu en conf. Merci Fredo, on te retrouve demain du coup, hein.
Merci les amis. Bah oui, bien sûr, hein.
Bonne soirée à toi mon Fredo, prépare-toi.
Tu viens avec nous à Bondy ou pas?
Demi-finale.
Non, je vais regarder le match tranquillement télé, puis parce que moi j'écoute les médias espagnols en fait. Pour après vous apporter une analyse,
un éclairage
espagnol.
Voilà, c'est ça.
Donc moi je suis le match en espagnol.
Ah bon.
Voilà. Bah oui, bah que veux-tu, hein.
C'est professionnel. C'est bon
boulot, hein. Merci Fredo. À demain.
La Nasser pour ne pas les citer.
Ciao, merci Fredo, bisous. Ciao. On rouvre le dossier des droits télé, nous, dans un instant. Maxime Saada, patron de Canal+, qui s'est exprimé. Jean-Pierre Caillot également s'est exprimé sur le dossier des droits télé. On fait le point dans un instant avec Walid Acharchour et Daniel Riolo sur RMC.